Donc, la conférence de ce soir porte sur l'industrie de l'armement et l'impérialisme. En France, l'industrie d'armement est un secteur clé de l'économie et bénéficie depuis longtemps de tous les appuis de l'État. Un nombre important de capitalistes tire des bénéfices considérables de la production d'armes. Une production qui, au mieux, est parfaitement inutile à vieillir dans les arsenaux et, au pire, sème la mort aux quatre coins de la planète. D'immenses fortunes bourgeoises se font et se consolident grâce aux guerres. La bourgeoisie domine la planète non seulement par les lois du commerce et l'exploitation, mais aussi par la puissance militaire. Depuis l'émergence de la bourgeoisie, son développement s'est appuyé sur le développement de l'armée, sur le développement du militarisme. Ce sont les guerres impérialistes qui ont façonné les rapports de force actuels et la hiérarchie entre les grandes puissances. Et c'est toujours en dernier recours la menace militaire qui fait régner l'ordre et la suprématie impérialiste dans le monde. Après deux guerres mondiales au siècle passé, le monde continue aujourd'hui d'être à feu et à sang, englué dans de multiples conflits régionaux dans lesquels on trouve pratiquement toujours les puissances impérialistes comme pompiers pyromanes. Elles prétendent toujours agir pour la paix, mais sèment la guerre partout dans le monde. Quand elles n'interviennent pas directement, elles arment et soutiennent des régimes à leurs bottes ou des rébellions face aux régimes qu'elles veulent affaiblir. La puissance militaire d'un pays repose en grande partie sur la puissance de son industrie d'armement. Cela ne se limite pas à la production d'armes au sens strict, mais aussi à toute la production qui fournit la logistique nécessaire au déploiement de la force militaire. Le système capitaliste produit des gâchis de toutes sortes. Mais le fait qu'il consacre une part aussi importante des forces productives à produire des engins qui n'ont d'autre raison d'être que de semer la destruction et la mort est certainement le plus révoltant de ces gâchis. Que des groupes humains se fassent la guerre n'est bien sûr pas une spécificité de la société capitaliste moderne. L'Empire romain, avec son appétit de conquête, avait poussé l'organisation militaire à un haut niveau et mobiliser dans ce but une bonne partie des forces sociales. Au Moyen Âge, les seigneurs féodaux, qui passaient leur temps à guerroyer pour agrandir ou défendre leurs fiefs, se préoccupaient bien sûr de leurs armures, leurs épées et leurs châteaux forts. Mais avec les grandes découvertes, le développement du commerce international et l'avènement de la bourgeoisie, les conflits militaires ont pris une ampleur nouvelle et ont eu pour théâtre les quatre coins du monde, puis le monde entier. Avec le capitalisme, toutes les productions intéressant les besoins militaires ont été portées à un niveau inégalé et monstrueux. La production d'armes, comme l'armée elle-même, est nécessaire d'abord pour permettre aux exploiteurs de défendre leurs intérêts et de maintenir les exploités à leur place, mais aussi de plus en plus pour permettre à ce système économique de continuer à tourner. Et pour cela, l'État joue son rôle en garantissant lui-même la demande ou en devenant le VRP des marchands de mort. Les capitalistes ont beau prôner la libre concurrence et le commerce sans entrave, c'est toujours l'État qui est le maître d'œuvre en matière de production d'armes, non seulement en remplissant le carnet de commandes des industriels, mais dans les périodes de fortes tensions internationales et surtout dans les guerres, en administrant plus ou moins directement l'ensemble du secteur de l'armement. Ce n'est pas avec la main invisible du marché ou l'initiative privée que les bourgeoisies ont réussi à organiser leur économie pendant les guerres mondiales que le XXe siècle a connues. Même aux États-Unis, c'est l'étatisme et pas le marché qui a permis d'organiser l'effort de guerre. On parle souvent de béquille étatique pour exprimer cette idée que le capitalisme n'arrive pas à marcher tout seul sans l'aide de l'État. Ce qui n'empêche pas les bourgeois de se plaindre en permanence que l'État dépense trop. En fait, ils considèrent que l'État dépense trop dès qu'il s'agit de dépenses utiles à la population, comme l'éducation, la santé, mais jamais lorsqu'il s'agit, selon leur expression, de soutenir leur économie, traduisez enrichir les capitalistes. Eh bien, dans le secteur de l'armement, ce n'est pas seulement de soutien dont il s'agit, c'est du gavage. Et c'est pour nous expliquer tout cela que je passe la parole au camarade Jean-Michel Fontan.
Bonsoir. L'industrie d'armement étant étroitement liée au rôle de l'État, il est bon de rappeler comment nous, marxistes, analysons le rôle et la fonction de l'État. Nous ne pensons pas que cette institution soit un arbitre au-dessus de la société ou le représentant de l'intérêt collectif. L'État est une institution politique liée à la structure de classe de la société et qui a pour fonction d'organiser le pouvoir de la classe dominante. Rappelons ce qu'en disait Engels dans « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Je cite « L'État est un produit de la société à un stade déterminé de son développement. L'État se caractérise par l'institution d'une force publique. Cette force publique particulière est nécessaire parce qu'une organisation armée autonome de la population est devenue impossible depuis la scission en classe. Cette force publique existe dans chaque État. Elle ne se compose pas seulement d'hommes armés, mais aussi d'annexes matérielles, de prisons et d'établissements pénitentiaires de toutes sortes qu'ignorait la société gentilis, c'est-à-dire la société primitive. Mais elle, c'est-à-dire la force publique, se renforce à mesure que les contradictions de classe s'accentuent à l'intérieur de l'État et que les États limitrophes deviennent plus grands et plus peuplés. Considérant notre époque actuelle, il parlait à son époque, Engels, notre Europe, où la lutte des classes et la rivalité de conquête ont fait croître à tel point la force publique qu'elle menace de dévorer la société tout entière et même l'État. » Fin de citation. À propos de la dissolution des sociétés primitives à l'aube de la civilisation, Engels précise, je cite toujours, « La guerre et l'organisation pour la guerre sont maintenant devenues fonctions régulières de la vie du peuple. Les richesses des voisins excitent la cupidité des peuples auxquels l'acquisition des richesses semble déjà l'un des buts principaux de la vie. La guerre, autrefois pratiquée seulement pour se venger d'usurpations ou pour étendre un territoire devenu insuffisant, est maintenant pratiquée en vue du seul pillage et devient une branche permanente d'industrie. Ce n'est pas sans motif que les murailles menaçantes se dressent autour des nouvelles villes fortifiées. » Fin de citation. Ainsi, comme le dit Engels, le militarisme est devenu permanent depuis la division de la société en classes aux intérêts antagoniques. Ce que l'on appelle aujourd'hui les fonctions régaliennes de l'État, ça vient du latin « rex », le roi, ce sont ces fonctions fondamentales, armée, police, justice. Ce sont des corps spéciaux d'hommes armés chargés de maintenir l'ordre, défendre la propriété et censés garantir la sécurité des citoyens. Pour garantir sa mission fondamentale, le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la domination de la classe bourgeoise, la police et l'armée disposent de moyens toujours plus sophistiqués et onéreux. Il est illusoire de penser que l'État pourrait exister sans ses moyens militaires et policiers. Bien sûr, certains pays, même parmi les pays impérialistes, ont une armée très faible, comme l'Allemagne ou le Japon, les vaincus de 1945, bien que les choses soient en train de changer. Mais ils ne le peuvent que parce que d'autres se chargent du maintien de l'ordre dans le monde, d'abord les États-Unis. Croire que l'ensemble des États impérialistes pourraient être démilitarisés traduit une incompréhension de la nature de l'État et des rapports sociaux que cet État a pour mission de préserver. Nous commencerons par un historique de cette course aux armements et de leur usage, avant de décrire plus précisément l'industrie et le marché de l'armement aujourd'hui. On a coutume de rappeler cette citation d'un militaire allemand, Karl von Clausewitz, je cite, « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Fin de citation. Mais c'est aussi la continuation du commerce et de la politique économique des puissances qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et c'est par la guerre que les États les plus puissants ont imposé leur domination. La guerre est une politique en matière d'armement. Le développement du grand commerce international, dès la découverte des Amériques, s'est appuyé sur le développement de la marine de guerre, mais aussi la piraterie. Les XVIe et XVIIe siècles ont été marqués par les guerres commerciales entre l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, en mer des Caraïbes, dans l'Atlantique et l'océan Indien. Les galions espagnols qui revenaient des Amériques remplis d'or étaient systématiquement attaqués et pillés par les pirates anglais agissant pour le compte de la couronne, dont le fameux Francis Drake. Les Français ont fait de même contre les Espagnols et les Anglais, avec les corsaires de Saint-Malo, du Guétroin ou Surcouf. La ville de Saint-Malo, dont les fortifications avaient été aménagées par Vauban, était d'ailleurs appelée le nid de guêpe par les Anglais. Comprenant l'importance de la marine de guerre pour le contrôle des mers et la suprématie commerciale, en 1624, Richelieu, premier ministre de Louis XIII, fit développer les arsenaux afin de donner à la France une puissance maritime capable de rivaliser avec celle de la Grande-Bretagne. Cette volonté sera prolongée par Colbert, ministre de la Marine de Louis XIV, mais cela ne suffit pas à détrôner la suprématie anglaise sur les mers. C'est l'industrie d'armement et la puissance militaire qui permit la domination de quelques pays européens sur le reste du monde. La colonisation de l'Inde, commencée dès le XVIe siècle, vit s'affronter les principales puissances de l'époque. Les Portugais installèrent des comptoirs sur la côte ouest, bientôt suivis par la Hollande, la Grande-Bretagne et la France. Celle-ci, arrivée bonne dernière dans la course, dut se contenter de quelques comptoirs comme Pondichéry ou Chandernagore. Les Européens évincèrent les marchands indiens du commerce maritime avec l'étranger, ne développant un partenariat qu'avec les plus importants d'entre eux, qui servaient d'intermédiaires. La conquête des territoires se fit petit à petit. C'est la Grande-Bretagne qui s'imposa rapidement. Dès le XVIIIe siècle, elle régnait en maître sur tout le sud de l'Inde. Pendant plusieurs décennies, en particulier celle de la fin du XVIIIe siècle, la Compagnie anglaise des Indes orientales réalisa des fortunes dans le commerce des produits indiens, en particulier les épices, les cotonnades et les soieries. Elle imposa son monopole par la force de ses canons et le commerce se transforma en pillage pur et simple. La Compagnie obligeait les paysans et les tisserands à lui vendre la totalité de leur production au prix qu'elle fixait. Elle écrasait les villages d'impôts qui allaient grossir la fortune de ses actionnaires. Un autre épisode significatif est celui de la guerre de l'opium, que l'Angleterre mena à la Chine en 1840, avec comme objectif principal d'obliger l'empereur chinois à ouvrir ses ports au commerce étranger, en particulier celui de l'opium, qui avait été interdit en Chine. À l'époque, la culture de l'opium se développait considérablement en Inde, sous la direction de ce qu'on appelait l'honorable compagnie, c'est-à-dire toujours la compagnie anglaise des Indes orientales. Une escadre de 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport avec 540 canons et 4000 hommes alla bombarder les ports chinois. Les troupes britanniques, composées en partie de soldats indiens, massacrèrent, pillèrent et terrorisèrent toute une région maritime. Finalement, l'empereur chinois céda. Il accepta d'accorder à la Grande-Bretagne ce qu'elle demandait, c'est-à-dire une forte indemnité en dédommagement de l'opium saisi qui avait été détruit par un fonctionnaire chinois et la cession de l'île de Hong Kong, qui restait anglaise jusqu'en 1997. La Grande-Bretagne estima cependant qu'elle pouvait obtenir davantage. La guerre reprit, Shanghai fut prise et mise à sac. Les Britanniques mirent le siège devant Nankin et l'empereur céda une nouvelle fois en acceptant que 5 ports dans Canton et Shanghai soient ouverts sans restriction au commerce britannique. De plus, les Anglais y auraient des concessions qui leur appartiendraient en propre. Tous les jugements concernant les sujets anglais en Chine seraient effectués uniquement devant des juridictions britanniques. Le montant des droits de douane serait soumis à l'accord de la Grande-Bretagne et de toute façon ne pourrait pas dépasser 5% de la valeur des marchandises. Le traité, après cette deuxième guerre, ne disait rien sur le trafic de l'opium, qui était pourtant la cause de la guerre. Mais bien entendu, celui-ci se renforça et fit plus que doubler en 20 ans, largement financé par la banque HSBC. L'État anglais et sa marine de guerre ont ainsi ouvert le commerce, le marché chinois, à la bourgeoisie anglaise. La morale de l'histoire, c'est que justement, il n'y en a pas. La politique de la canonnière a contribué à faire de l'Angleterre la première puissance économique du monde jusqu'à la guerre de 1914. Le XIXe siècle aura été marqué par la vague du colonialisme qui a vu les grandes puissances se jeter sur le monde pour le dépecer et se le partager. La France n'a pas été en reste et a colonisé une grande partie de l'Afrique, mais aussi le Liban, la Syrie, de nombreuses îles. À la fin du siècle, le capitalisme entre alors dans une nouvelle phase appelée impérialisme. Dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine résume ainsi la situation. Je cite : Le trait caractéristique de la période, c'est le partage définitif du globe. Définitif, non en ce sens qu'un nouveau partage est impossible, de nouveaux partages étant au contraire possibles et inévitables, mais en ce sens que la politique coloniale des pays capitalistes en a terminé avec la conquête des territoires inoccupés de la planète. Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir, il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du passage d'un possesseur à un autre, et non de la prise de possession de territoires sans maître. Fin de citation. Dans la course aux conquêtes coloniales, les derniers arrivés, comme l'Allemagne, furent les moins bien servis. Les rivalités entre pays impérialistes conduisirent à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Dans toute l'Europe, 70 millions d'hommes partirent comme soldats et 10 millions ne revinrent jamais. Les guerres napoléoniennes avaient déjà été une boucherie, mais avec les nouvelles techniques, la tuerie est devenue industrielle. Le capitalisme n'a pas seulement développé les forces productives à un niveau inimaginable pour les siècles antérieurs, mais il a également développé en proportion les forces destructrices. Armes automatiques, nouveaux canons, dont la fameuse grosse Bertha, début de l'aviation, premiers chars et autoblindés, navires cuirassés et sous-marins, sans oublier les gaz de combat, chlore, phosgène et hyperite, le gaz moutarde. Ces gaz étaient la terreur des soldats, qui mouraient dans d'atroces souffrances ou étaient blessés irrémédiablement. Initialement, c'est le chlore qui avait été utilisé, puis le phosgène, car incolore et quasi inodore, il avait l'avantage que les soldats ne pensaient pas à mettre leur masque à gaz. Mais le plus redoutable était le gaz moutarde. Après cloques sur la peau et vomissements, le gaz provoquait des hémorragies et détruisait les tissus pulmonaires. Cela causait des douleurs abominables aux soldats qui s'étouffaient à cause des liquides présents dans les bronches. Les malades gravement intoxiqués mettaient généralement 4 à 5 semaines pour mourir. Mais la guerre ne fut pas une catastrophe pour tout le monde, car il y eut les profiteurs de guerre. D'abord, les marchands de canons, évidemment, l'Allemand Krupp et le Français Schneider, par exemple. La Première Guerre mondiale fit exploser leurs profits. L'autre industrie qui gagna énormément dans la guerre, ce fut l'automobile, mais pas toujours en fabriquant des voitures. Toutes les grandes firmes automobiles surent obtenir des marchés juteux de l'État. En 1915, André Citroën décrochait un contrat pour 1 million d'obus. Pour les fabriquer, il obtint de l'État une aide pour la construction d'une usine géante, quai de Javel, à Paris. Un rapport établit que Citroën avait vendu ses obus 2 fois plus cher que le prix du marché. Il ne fut jamais publié. En revanche, les aides de l'État lui permirent de moderniser et d'introduire le travail à la chaîne dans cette usine tournant principalement avec une main-d'œuvre féminine sous-payée. Berliet, lui, s'enrichit dans les camions. Renault avec les tracteurs, les avions, les chars, sans oublier les fameux taxis de la Marne. Quant au Peugeot, après avoir prospéré dans différents domaines, il s'était lancé dans l'automobile avant la guerre. L'usine de Sochaux fut fondée en 1912 et produisait déjà 4000 voitures en 1913. Pendant la guerre, la société Peugeot reçut 26 millions de francs de l'État pour fabriquer des moteurs d'avions de chasse, dont aucun ne sera jamais livré, mais cela lui permit d'agrandir ses installations. Dans la chimie, Pechiney fut un des premiers à se consacrer à la production de guerre et à profiter des aides de l'État. Le ministère de l'Armement construisit et équipa à son profit une usine de production de chlore à Saint-Auban, dans la vallée de la Durance. Il faut dire que jusqu'en 1914, les Allemands avaient un quasi-monopole sur la production de chlore. Les trusts BASF, Bayer et Agfa s'étaient associés pour former le conglomérat IG Farben. Ils développèrent des méthodes pour répandre le chlore dans les tranchées adverses. Les mêmes s'enrichiront plus tard avec le zyklon B, gaz utilisé pour l'extermination des Juifs. C'est aussi grâce à la guerre que se forgea l'Empire Boussac. Marcel Boussac, né en 1889 dans une famille de négociants en tissu, fut mobilisé en 1914, mais trouva immédiatement le moyen de ne pas aller au front et mit la main sur des usines dans les Vosges. Entre 1914 et 1918, il vendit pour 75 millions de francs de fournitures à l'armée, chemises, caleçons, étuis de masques à gaz. La guerre fit sa fortune. Les profits dégagés pendant la guerre furent faramineux. Pendant que les rentiers, les bourgeois moyens ou petits se retrouvaient ruinés, la haute bourgeoisie, elle, en sortit renforcée et enrichie. Les grandes familles bourgeoises prospérèrent aussi, grâce aux commandes de l'État et au cœur même des États. En France, il faut ajouter Michelin, en Allemagne, Thyssen, aux États-Unis, Ford, Rockefeller, Morgan et tant d'autres. Aujourd'hui, la première puissance économique et militaire du monde, et de loin, ce sont les États-Unis. Les États-Unis étaient devenus, après la guerre civile américaine, la guerre de sécession dans les années 1860, une grande nation bourgeoise et une puissance commerciale de premier plan. Mais leur domination s'est affirmée avec la Première Guerre mondiale. Et leur puissance industrielle, mise au service de la guerre, a joué dans cette émergence un rôle prépondérant. Les Américains ont laissé les belligérants européens s'épuiser dans la première partie de la guerre, mais voulaient avoir leur mot à dire sur le règlement du conflit et ne voulaient surtout pas qu'une nation européenne domine les autres. Cela aurait été pour eux un concurrent trop puissant. Ils décidèrent d'entrer en guerre en avril 1917. Mais, à ce moment-là, leur armée n'était pas encore suffisamment équipée et manquait de stock. Le gouvernement créa des agences fédérales pour mobiliser l'économie en vue de la production de guerre. Formellement, il ne s'agissait pas de nationalisation, mais d'un système de contrôle et de réglementation qui donnait au gouvernement le pouvoir d'administrer l'économie sans laisser les lois du marché jouer librement. Pour coordonner les achats, il créa le War Industries Board, WIB, en juin 1917. Comme cela ne suffisait pas encore pour obtenir une véritable mobilisation industrielle, le président des États-Unis, Wilson, demanda en janvier 18 des pouvoirs étendus pour renforcer les organismes gouvernementaux chargés des questions relatives à la guerre. Le président du WIB, agissant en fonction de pouvoirs spéciaux, obtint une autorité absolue pour répartir les matières premières entre les industries, déterminer les priorités en matière de production, de distribution et de transport, fixer les prix des produits qu'il achetait, standardiser les produits, développer au maximum l'économie de guerre et même réquisitionner, en cas de nécessité, des usines. Il devint une sorte de dictateur économique des États-Unis. Bref, dans un pays qui est le chantre de la libre entreprise et où toute intervention de l'État fait hurler au socialisme, il a fallu la baguette étatique pour organiser l'ensemble de l'économie dans un but de guerre. La même situation se reproduira de manière encore plus impérieuse pendant la Deuxième Guerre mondiale. En avril 1917, l'armée américaine n'avait que 300 camions, mais elle en possédait 85 000 en fin 1918. Par contre, en matière d'armement ou de transport maritime, les États-Unis étaient encore dans une certaine dépendance par rapport au Royaume-Uni ou à la France. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui leur assurera la suprématie dans ces domaines. L'État japonais, lui, comprit à la fin du XIXe siècle que les colonisateurs anglais ou néerlandais qui avaient ouvert à la canonnière leur marché en Inde, en Chine, en Indonésie ne feraient avec leurs navires de guerre impressionnants qu'une bouchée du Japon arriéré. L'État japonais, sous l'ère de la dynastie Meiji, à la fin du XIXe siècle, décida alors de créer au forceps une industrie militaire et navale, de liquider le pouvoir du shogun, le chef militaire traditionnel, et celui de la caste des samouraïs pour entrer dans l'ère moderne. La jeune bourgeoisie japonaise avait besoin de son État pour qu'en quelques décennies, le Japon développe une industrie navale, devienne un pays impérialiste et s'attaque militairement à ses voisins afin de ne pas laisser les Européens prendre tout. En septembre 1931, l'armée japonaise envahit la Mandchourie, une région de la Chine du Nord que l'impérialisme occidental avait laissée de côté. Mais le Japon n'entendait pas se limiter à la Chine du Nord. Les dirigeants japonais se préparaient alors à utiliser la force pour s'ouvrir en grand le marché chinois, imitant ce qu'avaient fait les Anglais un siècle plus tôt. La Chine était cependant un gros morceau, d'autant plus gros que les intérêts impérialistes européens et américains étaient directement dans la place. C'est pourquoi le Japon était à la recherche d'alliés en Europe et il trouva l'Allemagne nazie. Il s'engagea dans le deuxième conflit mondial aux côtés de l'Allemagne dans le but de repartager le gâteau et d'affaiblir les pays impérialistes européens, ses principaux concurrents dans l'Asie du Sud-Est. Les troupes japonaises déclenchèrent l'offensive en Chine dès 1937, mais en Europe, la Deuxième Guerre mondiale ne démarra qu'en septembre 1939. Dès mai 1940, à une époque où les États-Unis n'étaient pas encore en guerre, Trotsky écrivait, je cite, « Une victoire potentielle de l'Allemagne sur les Alliés serait suspendue comme un cauchemar sur Washington. En possession du continent européen et des ressources des colonies de ce dernier comme base d'action, ayant à sa disposition les usines d'armement et les arsenaux européens, l'Allemagne, surtout si elle agissait en accord avec le Japon en Orient, constituerait un danger mortel pour l'impérialisme américain. » Fin de citation. Mai 40. En 1941, les armées allemandes dominaient l'Europe du Cap Nord à la Grèce et du Finistère à Brest-Litovsk. C'était une situation de moins en moins tolérable pour l'impérialisme américain. Au printemps 41, les dirigeants américains prirent une décision importante, la loi dite pré-bail, d'aide économique à la Grande-Bretagne, qui était alors la seule puissance encore en guerre contre l'armée allemande depuis juin 40, et qui avait des besoins de plus en plus massifs et n'avait plus les moyens de payer. Désormais, tout le potentiel économique du plus puissant des impérialismes allait être mis en route pour combattre le camp allemand. À la fin de l'année 41, la production militaire américaine avait doublé par rapport à 1939. Le pouvoir fédéral américain était conscient de l'inéluctabilité d'un engagement militaire, mais la population y était majoritairement hostile. L'attaque japonaise de Pearl Harbor fournit le prétexte pour l'entrée en guerre des États-Unis. La supériorité militaire des Américains était liée à celle de leur industrie d'armement qui tournait à plein régime. Ils étaient capables de produire plus d'armes que l'ennemi n'était capable d'en détruire. Lors de son plus haut niveau de production, l'industrie de guerre aéronautique américaine construisit chaque mois 800 bombardiers Boeing B-29 Super Fortress. C'était l'avion le plus avancé de l'époque qui pouvait voler à haute altitude avec la pressurisation de cabine. Quant au projet Manhattan, projet secret, pour la mise au point de la bombe atomique, la bombe A, il employait à lui seul plus de 130 000 personnes avec un budget de 2 milliards de dollars. Les États-Unis avaient repoussé la capitulation que le Japon lui proposait car il tenait à faire la démonstration à l'intention de tous les peuples du monde que l'impérialisme américain possédait une arme nouvelle, terrifiante, et qu'il n'hésitait pas à s'en servir contre les civils. Il s'agissait à la fois de terroriser, donc je dis tous les peuples, mais en particulier la population japonaise, car l'effondrement du régime japonais pouvait conduire à un vide politique dangereux, mais aussi d'imposer leur leadership face à l'URSS en vue de l'après-guerre. Le 6 août 1945, un bombardier américain larguait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le 9 août, une seconde bombe atomique était lâchée sur Nagasaki. Les deux villes, en une fraction de seconde, étaient anéanties. Il y eut entre 150 000 et 250 000 morts. Selon un article paru dans la revue Science et Vie, je cite, « Cette première bombe atomique, que les Américains appelèrent, baptisèrent Little Boy, a recréé les conditions qui règnent à l'intérieur du soleil. Mais ce fut un soleil de mort. À Hiroshima, dès le premier millionième de seconde, l'énergie thermique fut transportée dans un flash de lumière éblouissante par des rayons X qui transformèrent l'air en une boule de feu d'environ 1 km de rayon et de plusieurs millions de degrés, planant quelques secondes sur la ville et par une onde thermique qui se propagea à la vitesse de la lumière, brûlant tout sur son passage. Au sol, la température atteignit plusieurs milliers de degrés sous le point d'impact. Dans un rayon de 1 km, tout fut instantanément vaporisé et détruit en cendres, réduit en cendres. Jusqu'à 4 km de l'épicentre, bâtiments et humains prirent feu spontanément. L'onde de choc, accompagnée de vents d'une violence inouïe qui projetait les débris et entretenait des tempêtes de feu, réduisit tout en poussière dans un rayon de 2 km. Sur les 90 000 bâtiments de la ville, 62 000 furent entièrement détruits. Le troisième effet de l'explosion nucléaire, le plus spécifique mais pas le moins meurtrier, est le rayonnement radioactif. Ce rayonnement est d'autant plus terrifiant que ses effets, les cancers, ne sont apparus que des jours, des mois, voire des années après l'explosion. Fin de citation. En 1949, l'URSS mit elle aussi au point sa première bombe nucléaire. En 1952, les États-Unis passèrent de la bombe A à la bombe thermonucléaire, bombe H ou bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante que la bombe A, 1000 fois Hiroshima. En 1953, les Russes eurent aussi la leur, et la course aux armements s'emballa avec la guerre froide. Guerre qui n'a pas toujours été froide d'ailleurs, comme en Corée ou au Vietnam. Les risques de Troisième Guerre mondiale étaient alors dans toutes les têtes. Début 1961, dans son discours de fin de mandat, le président américain Eisenhower utilisa le premier l'expression « complexe militaro-industriel » pour alerter sur son poids devenu gigantesque et qu'Eisenhower présenta comme une menace pour la liberté et la démocratie, si c'est lui qui le dit. C'est sous la pression de ce complexe militaro-industriel que, dès la campagne présidentielle de 1960, le candidat démocrate Kennedy popularisa l'expression « missile gap » pour prétendre un retard des États-Unis face à l'URSS en ce qui concerne les missiles ICBM. Ce sont des missiles balistiques à longue portée capables d'atteindre plusieurs cibles différentes à plus de 5000 km. On apprendra plus tard que ce retard supposé était dû à une surestimation délibérée des capacités soviétiques par les services américains et que l'URSS était en fait derrière les États-Unis sur cette question. Il est vrai que le succès soviétique avec le lancement du premier satellite Sputnik et les déclarations de Khrouchtchev disant produire des missiles comme les saucisses pouvaient accréditer les mensonges américains. Ce type de gros mensonge d'État se retrouvera plus tard dans la campagne concernant les soi-disant armes de destruction massive de Saddam Hussein pour justifier la deuxième guerre du Golfe en 2003. Il faut cependant souligner que pour rattraper l'URSS, économie étatisée où ce n'était pas le marché qui faisait la loi, les États-Unis ont encore eu besoin de créer une agence gouvernementale, la NASA, pour piloter le secteur des industries spatiales, la libre concurrence étant bien incapable de rivaliser avec la coordination et la cohérence que donnent les moyens étatiques. Pour ce qui est de la France, en 1958, de Gaulle, porte-parole acharné du petit impérialisme français, lança également le programme militaire nucléaire français et amorça la création de son complexe militaro-industriel français. La France a eu sa bombe atomique en 1966. Et de Gaulle, défenseur d'une prétendue indépendance de la France, crânement, quitta alors l'organisation militaire créée autour des États-Unis, l'OTAN. Lors des 210 essais nucléaires français, plusieurs milliers de personnes ont été irradiées en Polynésie ou dans le Sahara. Mais il a fallu aux victimes beaucoup d'acharnement pour faire reconnaître leur maladie comme liée aux essais et pour obtenir des indemnisations. La levée du secret défense sur une partie des documents en 2013 seulement a montré que l'armée était parfaitement informée, dès le début, des risques pour la santé des habitants, mais qu'elle n'a mis en place aucune mesure préventive ni de suivi sanitaire de la population. Pire même, en fait, elle a même une stratégie délibérée pour empêcher l'accès aux données sanitaires. Ainsi, presque tous les chefs de service de l'hôpital civil de Tahiti étaient des militaires qui ne laissaient filtrer aucune information sur les décès ou les maladies traitées. Jusqu'à aujourd'hui, ces données ne sont pas accessibles. Les médecins civils, qui ont depuis fait quelques enquêtes, ont observé un nombre absolument élevé de fausses couches, d'enfants morts en bas âge ou de graves malformations congénitales, hydrocéphalie, mongolisme, asymétrie faciale, etc. Une institutrice a noté dans ses cahiers que beaucoup de ses élèves perdaient les cheveux. Le 6 novembre 1993, après la diffusion d'un documentaire sur Arte, Mururoa, le grand secret, lors du débat organisé par la chaîne, le général Roger Ducousseau, pharmacien des armées, a osé déclarer que la radioactivité à Tahiti était moitié moindre qu'en Alsace. Un certain nombre de parlementaires émirent des protestations indignées contre la chaîne Arte. Et toutes les demandes d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires ont été rejetées. Malgré différents traités internationaux signés dans les années 1970, SALT I puis SALT II, visant la non-prolifération nucléaire et une limitation des armements entre les deux grands, la course folle aux armements n'a jamais vraiment cessé. Cette course reprit de plus belle avec l'arrivée au pouvoir de Reagan en 1981, qui lança l'initiative de défense stratégique IDS, ou guerre des étoiles. De façon ironique, son programme qui se voulait très libéral du point de vue économique, c'est-à-dire avec une intervention moindre de l'État, s'accompagnait en fait d'énormes contrats et subventions accordés aux firmes du complexe militaro-industriel. Abandonné en 1993 par Bill Clinton, le programme IDS trouva un successeur dans le programme National Missile Defense, ou bouclier antimissile, lancé par George W. Bush, alors que les États-Unis s'engagèrent en Irak et en Afghanistan. D'un coût exorbitant, ces grands programmes ont essentiellement bénéficié aux géants américains du secteur, car, sur le plan militaire, ils n'ont servi à rien. Malgré la fin de l'URSS, la course folle et de plus en plus coûteuse aux armements a donc continué. Mais, en dépit de leur supériorité militaire, toutes les guerres menées par les États-Unis se sont terminées en fiasco. Vietnam, Afghanistan, Irak, Libye, ils n'ont réussi qu'à semer le chaos. Un autre secteur qui touche étroitement à la politique militaire des États est celui du renseignement. Les révélations d'Edward Snowden en 2013, puis de WikiLeaks en 2015, ont montré l'ampleur de la surveillance des communications que les États-Unis pratiquent vis-à-vis du grand public et même vis-à-vis des dirigeants de pays alliés. On a ainsi appris que les téléphones portables de Hollande, Merkel ou Dilma Rousseff, l'ex-présidente du Brésil, avaient été espionnés par la NSA, National Security Agency, mais aussi ceux de Sarkozy ou Chirac, ainsi que de hauts responsables japonais, dont le directeur de la Banque centrale. En fait, dès 1975, le directeur de la NSA avait déjà reconnu que, je cite, « la NSA interceptait systématiquement les communications internationales, les appels téléphoniques, comme les messages câblés, dont des messages adressés à des citoyens américains ou émanant d'eux ». et ceci en violation du 4e amendement de la Constitution des États-Unis, qui interdit d'espionner un citoyen américain sans mandat. Comme quoi les lois ne sont pour eux que des chiffons de papier. Les responsables de la bourgeoisie savent très bien que les grands intérêts politiques et économiques sont au-dessus des lois. La cybersécurité, qui frise parfois la cyberguerre, est un secteur en plein boom. Les États-Unis auraient réussi à saboter en 2010 une centrifugeuse iranienne utilisée pour l'enrichissement d'uranium grâce à un virus informatique appelé Stuxnet. Les États-Unis ne sont évidemment pas les seuls à développer ou utiliser les technologies informatiques ou les télécommunications dans un but militaire ou policier. Mais ce sont eux qui disposent en la matière d'une supériorité écrasante. D'une part, parce que les principales sociétés de l'Internet, Google, Amazon, Facebook, sont américaines, de même que Apple, Microsoft. Ainsi, la NSA, dispose de moyens de pression pour les obliger à collaborer. Mais d'autre part, parce que les États-Unis consacrent à cet espionnage des moyens colossaux sans commune mesure avec les autres pays. Mais les nouvelles technologies ne s'arrêtent pas à la surveillance ou au sabotage électronique. Les drones, qui peuvent par ailleurs remplir de nombreuses fonctions utiles, sont surtout utilisés et développés dans un but militaire. Le Predator peut porter jusqu'à 350 kg de munitions. Et le Reaper, la faucheuse, jusqu'à une tonne. Les États-Unis forment aujourd'hui davantage de pilotes de drones que de pilotes de chasse embarqués. Des chercheurs travaillent même au développement de robots tueurs autonomes. Les attaques de drones menées essentiellement par les États-Unis ont déjà fait plusieurs milliers de morts parmi les populations civiles au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen ou en Somalie. Officiellement, il s'agit d'assassinats ciblés. Mais le journal Le Guardian donnait par exemple en novembre 2014 le chiffre de 1147 personnes tuées pour seulement 41 cibles au Pakistan. Devant les réactions indignées, l'ancien chef de la CIA au Pakistan avouait cependant qu'avec ces attaques, je cite, « nous créons plus d'ennemis que nous n'en supprimons du champ de bataille ». Fin de citation. Bien sûr, tous les États ont leurs services secrets chargés des coups tordus. Le Mossad pour Israël, Scotland Yard pour le Royaume-Uni, la DGSE pour la France et surtout la CIA pour les États-Unis. Cette dernière emploie plus de 20 000 personnes et on peut mettre à son actif le renversement du président iranien Mossadegh en 1953, coup d'État contre le président du Guatemala, Guzman, en 1954, coup d'État contre Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, en 1960, aide au renversement du président du Brésil, João Goulart, en 1964, soutien à l'armée indonésienne pour le renversement du président Sukarno à Jakarta, en 1965, suivi de l'élimination physique du Parti communiste indonésien, 450 000 morts, coup d'État contre Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, en 1969. Collaboration avec le général Pinochet pour le renversement de Salvador Allende, président du Chili, en 1973. Et elle échouera néanmoins à renverser Fidel Castro, malgré un débarquement militaire à Cuba dans la baie des Cochons, organisé par la CIA en avril 1961. Les États-Unis possèdent aujourd'hui 11 porte-avions, plus de 50 sous-marins nucléaires, environ 800 bases militaires dans le monde, en dehors de leur territoire, soit 95% des bases militaires extraterritoriales. Les militaires américains sont présents dans plus de 160 pays et leur présence ne cesse d'augmenter. Ils ont par exemple près de 40 000 soldats en Allemagne et 50 000 au Japon. Alors quand on nous présente la Corée du Nord comme une menace pour la paix et la sécurité dans le monde, il faut regarder les choses avec leur juste proportion. Le 18 septembre dernier, des bombardiers américains ont survolé les côtes nord-coréennes. Et le lendemain, à l'ONU, le président Trump déclarait qu'il était prêt à la destruction totale de ce pays de 25 millions d'habitants. Par ses déclarations et son attitude, il incarne parfaitement l'arrogance de la puissance impérialiste dont il est le représentant, sans utiliser le langage bienséant et hypocrite habituel. Comme cela a été le cas pour l'Iran, les grandes puissances veulent empêcher la Corée du Nord de se doter de l'arme nucléaire. En 1970, les cinq pays détenteurs de l'arme nucléaire et par ailleurs membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France et Chine, ont mis en place le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, pour se réserver à eux seuls le droit de fabriquer des armes nucléaires. Sous la pression, de nombreux pays l'ont signé et en contrepartie, les cinq grands se sont engagés à ne pas attaquer ces pays qui avaient signé avec leurs armes atomiques. La Corée du Nord s'est retirée de ce TNP bidon en 2003, mais surtout Israël, l'Inde et le Pakistan ne l'ont pas signé et ont développé un programme nucléaire militaire. Pour l'Inde, il y eut protestation, pression internationale et même embargo après des essais nucléaires en 1998, mais absolument pas pour Israël, représentant fidèle parmi les fidèles de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Israël n'a jamais voulu reconnaître son programme nucléaire militaire et a même fait condamner à 18 ans de prison pour espionnage et trahison Mordecai Vanunu, un ancien technicien d'une centrale nucléaire, grâce à qui la presse britannique a révélé l'existence de ce programme en 1986. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde n'a pas connu un seul jour sans guerre. Faisons un rapide bilan macabre, où nous ne citerons que les guerres menées directement ou avec la complicité d'un pays impérialiste. Indochine, 1946-1954, 400 000 morts. Corée, 1950-1953, 2 millions de morts. Vietnam, de 55 à 75, 2 millions de morts. Algérie, 54-62, au moins 300 000 morts. Angola, de 61 à 75, puis de 75 à 2002, 500 000 morts. La guerre des Six Jours, en 1967, 20 000 morts. La guerre du Biafra, de 67-70, entre 1 et 2 millions de morts. Cambodge, 70-75, 300 000 morts. Iran-Irak, 80-88, entre 500 000 et 1 million de morts. Nicaragua, 85-88, 30 000 morts. Guerre du Golfe, 90-91, 25 000 morts. Rwanda, 1994, 900 000 morts. Deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2003, entre 180 000 et 3 millions de morts. Guerre d'Irak, de 2003 à 2011, 40 000 morts. Et les guerres d'Afghanistan, depuis 1979, sans arrêt, plus de 150 000 morts. Enfin, dans bien d'autres conflits locaux, les puissances impérialistes jouent un rôle actif, ne serait-ce qu'en fournissant des armes aux bandes rivales, comme par exemple en ce moment au Kivu, une région de l'Est de la République démocratique du Congo, riche en métaux rares et en diamants. Revenons brièvement sur deux conflits parmi les plus meurtriers. Au Vietnam, les Américains ont largué 7 millions de tonnes de bombes, plus du double de toutes les bombes larguées par tous les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont très largement mené une guerre chimique, avec le napalm, qui est de l'essence gélifiée très collante, utilisée dans des bombes incendiaires, faites pour coller à la peau et brûler les tissus jusqu'à l'os. Et aussi l'agent orange, un défoliant contenant de la dioxine, fabriqué pour l'armée américaine par Monsanto et Dow Chemical, qui a été déversé en quantité sur les forêts vietnamiennes. En plus de détruire forêts et récoltes, et d'intoxiquer mortellement les soldats du Viet Cong, comme les civils, il a durablement contaminé les sols, au point qu'aujourd'hui encore, nombre d'enfants vietnamiens naissent avec des malformations. Ensuite, sur la guerre du Biafra. Le Biafra est une région du Nigeria située au sud-est et qui comprend le delta du Niger. C'est l'impérialisme français qui a encouragé cette région à faire sécession avec le reste du pays en armant et soutenant un État séparatiste opposé au reste du Nigeria. Pourquoi ? Situé en Afrique de l'Ouest, au contact de l'ancien empire colonial français, le Nigeria, ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1960, était resté sous influence anglaise. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et aujourd'hui le 7e pays le plus peuplé du monde. Et De Gaulle, à l'époque, craignait le poids du géant nigérian sur les États africains voisins sous influence française. Son émissaire en Afrique, Jacques Foccart, raconte, je cite, « De mon point de vue, le Nigeria était un pays démesuré par rapport à ceux que nous connaissions bien et qui faisait planer sur ceux-ci une ombre inquiétante. » Fin de citation. Et il reconnaîtra que l'argent pour alimenter cette guerre venait des caisses de l'État français. Chaque jour, des dizaines de tonnes d'armes et de matériel militaire étaient acheminées vers le Biafra par des mercenaires et des hommes du SDES, c'est l'ancêtre de la DGSE. Et c'est l'ambassadeur de France au Gabon qui coordonnait les opérations. Rappelons le bilan de cette guerre, je l'ai dit, entre 1 et 2 millions de morts. Signalons enfin que la guerre civile au Rwanda, avec son génocide des Tutsis, a également eu pour toile de fond la rivalité franco-britannique pour le contrôle d'une partie de l'Afrique. En s'appuyant sur leur industrie d'armement, les grandes puissances ont ainsi transformé le monde en un champ de rivalité et de guerre permanente. Le secteur de l'armement est un concentré des caractéristiques du capitalisme au stade pourrissant de l'impérialisme. Concentration du capital, constitution de monopoles, exportation de capitaux, partage du monde. Il est dominé par des trusts multinationaux adossés aux États et en tout premier lieu aux États impérialistes. Au sujet de la formation des trusts et la concentration du capital, voici ce qu'écrivait Lénine dans l'ouvrage déjà cité « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Je cite « Le développement intense de l'industrie et le processus de concentration extrêmement rapide de la production dans des entreprises toujours plus importantes constituent une des caractéristiques les plus marquées du capitalisme. La concurrence se transforme en monopole. Il en résulte un progrès immense de la socialisation de la production, et notamment dans le domaine des perfectionnements et des inventions techniques. Le monopole accapare la main-d'œuvre spécialisée, les meilleurs ingénieurs. Le capitalisme, arrivé à son stade impérialiste, conduit aux portes de la socialisation intégrale de la production. La production devient sociale, mais l'appropriation reste privée. Les moyens de production sociaux restent la propriété privée d'un petit nombre d'individus. Le cadre de la générale de la libre concurrence nominalement reconnue subsiste et le joug exercé par une poignée de monopolistes sur le reste de la population devient 100 fois plus lourd, plus tangible, plus intolérable. » Fin de citation. Signalons aussi que le secteur de l'armement vit au crochet de l'État qui remplit généreusement le carnet de commandes des capitalistes du secteur. Les pays qui produisent le plus d'armes dans le monde sont les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine. Les dépenses militaires représentent de l'ordre de 1 700 milliards de dollars par an. Ça ne parle pas trop, ça représente 220 dollars par habitant sur la planète. Les États-Unis sont largement en tête avec un tiers du total. La France n'est cependant pas en reste, avec un budget de la défense de 51 milliards de dollars en 2015, soit plus de 750 dollars par habitant. Elle est le troisième exportateur d'armes au monde. Les dépenses militaires dans le monde ont augmenté d'un tiers en 10 ans. Même si les pays impérialistes exportent beaucoup, une grosse partie des dépenses d'armement correspond à des achats des États aux firmes nationales. Les États achètent eux-mêmes les armes produites par les industriels nationaux, leur faisant cadeau au passage d'un marché protégé extrêmement lucratif. Lockheed Martin est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. C'est le fabricant des avions de combat de l'armée américaine, comme le F-16. D'importantes restructurations et concentrations ont eu lieu dans les années 1990. Le numéro 2 mondial est aujourd'hui Boeing. Après avoir acquis, en août 1996, les activités spatiales et de défense de Rockwell International pour 3,2 milliards de dollars. Rockwell était notamment le fabricant des 7 navettes spatiales américaines, dont Discovery et Challenger. Dans la foulée, en août 1997, Boeing a racheté l'ex-numéro 2 mondial derrière Lockheed Martin, qui était McDonnell Douglas, pour 13 milliards de dollars. Citons encore Northrop Grumman, sixième mondial, un conglomérat américain né de la fusion entre Northrop et Grumman en 1994. Elle emploie plus de 125 000 salariés, chiffre de 2004, répartis sur des centaines de sites à travers 25 pays. En Europe, c'est d'abord l'anglais BAE Systems qui tient la palme, troisième mondial, puis Airbus, dont les activités militaires en font la septième entreprise d'armement au monde. En France, c'est la DGA, Direction Générale de l'Armement, composée d'ingénieurs à statut militaire, qui pilote le secteur industriel de la défense, en équipant les forces armées, mais aussi en assurant la promotion des exportations de l'industrie de défense. Les liens organiques entre la DGA et les entreprises de défense permettent de parler à juste titre de complexe militaro-industriel. Lorsque la DGA est mise en place en 1961, d'abord sous le nom de Délégation ministérielle pour l'armement, elle est le fruit de la politique de Gaulle et en particulier de la volonté de se doter de l'arme nucléaire en lien avec le CEA, le Centre d'énergie atomique. Pour de Gaulle, l'indépendance de la France a besoin d'une industrie militaire forte et, à l'exemple des États-Unis, il sait que les moyens de l'État sont nécessaires. C'est donc sous l'impulsion de la DGA qu'au cours des années 60 et 70, l'industrie de défense va se concentrer et se spécialiser autour de quelques champions nationaux qui disposent pourtant de structures et de statuts très différents. Des établissements d'État comme le GIAT, Groupement industriel des armements terrestres, créé en 1971, ou les arsenaux de la DCAN, Direction des constructions et armes navales, qui sont des entreprises publiques, et d'autres entreprises dans lesquelles l'État détient une part de capital plus ou moins importante, comme Thomson CSF, ou des sociétés privées comme Dassault Aviation ou Matra. Dans les années 1990, on a assisté à un nouveau phénomène de concentration-restructuration. Il s'est passé dans l'industrie d'armement la même chose que dans les télécoms, l'énergie, etc. Une fois bien nourris au biberon de l'État, ce sont devenus des entreprises rentables qui ont pu être privatisées. Et elles ont cherché à conquérir des marchés à l'étranger selon les mêmes critères capitalistes que l'on trouve dans tous les secteurs. Les restructurations se poursuivent jusqu'à aujourd'hui avec de nombreuses fusions et transferts de filiales dans le but de créer des mastodontes français ou européens pour être plus forts dans un secteur devenu très concurrentiel et dans un contexte de globalisation des ventes d'armes. Aujourd'hui, le complexe militaro-industriel français est principalement composé de Nexter, l'ancien GIAT, de Renault Trucks Défense pour le terrestre, Airbus, Safran et Dassault pour l'aéronautique, Thales et Safran pour l'électronique, Naval Group, l'ex-DCNS pour le naval et MBDA pour la missilerie. En 2006, GIAT Industries a regroupé son cœur de métier sous le nom de Nexter, après un vaste plan de restructuration qui a ramené ses effectifs à moins de 3 500 salariés, contre 6 000 en 2003 et 18 000 au début des années 1990. Les sites de Saint-Étienne, de Saint-Chamond et de Tarbes ont été quasi entièrement abandonnés, après des ventes aux enchères et des pertes d'emplois massives dans les années 90 et 2000. Nexter a produit, entre autres, le fusil mitrailleur FAMAS, le char AMX-30, le char Leclerc. Fin 2013, Nexter a racheté 100% des titres du groupe SNPE, Société nationale des poudres et explosifs. Mais l'État était encore le seul actionnaire de l'ensemble. En juillet 2015, Nexter fusionne avec l'armurier allemand Krauss, Maffei et Wegmann pour créer un nouvel ensemble de 6 000 employés et 1,7 milliard d'euros, contrôlés à 50% par l'État et à 50% par la famille Bode-Wegmann. La nouvelle société commune, baptisée KNDS, est devenue le leader européen des blindés et a établi son siège aux Pays-Bas, un paradis fiscal au cœur de l'Europe, comme viennent de le montrer les Paradise Papers. Pour ce qui est de la marine, on a assisté à un phénomène identique. L'ancienne DCAN, devenue la DCN en 1991, avec comme objectif de promouvoir ses activités sur le marché international et faciliter l'exportation de ses productions. Cette stratégie de développement s'est traduite par la signature de plusieurs contrats majeurs. Et comme l'affaire est devenue rentable, l'État décide en 2001 de transformer la DCN en société anonyme de droit privé, la DCNS, qui, après le transfert de la branche navale de Thalès en 2007, est détenue à hauteur de 62% par l'État français et 35% par Thalès, dont Dassault est l'actionnaire principal. Et depuis juin dernier, le nom a encore changé pour devenir maintenant Naval Group. Parlons des missiles. MBDA, deuxième entreprise mondiale de missiles, est aujourd'hui une filiale commune d'Airbus Group, de BAE Systems et de Leonardo, une entreprise italienne, anciennement Finmeccanica, neuvième entreprise mondiale d'armement. La constitution de ce conglomérat MBDA remonte à 2001 et résulte d'une volonté de créer un missilier européen. On parlait à sa création de l'Airbus des missiles. 2015 a été une année record pour l'entreprise, avec 5,2 milliards de commandes en augmentation de 27% sur un an. Le marché de la mort se porte bien. Un des produits phares du groupe, le missile Exocet, initialement développé par la branche missile d'aérospatiale, l'ancêtre d'Airbus, a été vendu à près de 4 000 exemplaires et a été utilisé notamment dans la guerre des Malouines et la guerre Iran-Irak. 4 000 missiles, cela équivaut au prix de la construction de 18 hôpitaux généraux de 20 000 m². Ces restructurations se sont toujours faites dans l'intérêt des capitalistes de l'armement. On peut l'illustrer par l'histoire d'un des grands bourgeois qui a prospéré sur ce marché capitaliste, Marcel Dassault, père de Serge, qui est aujourd'hui l'une des premières fortunes du pays. Et on l'illustrera après la pause.